Daniel Laferrière publiait en 2009 L'énigme du retour, le récit de sa redécouverte de Haïti après la mort de son père. Une histoire de destin parallèle, le père et le fils tous deux partis en exil.
Du balcon de l'hôtel, je regarde Port-au-Prince au bord de l'explosion.
Un témoignage exceptionnel sur Haïti mêlant l'humour et l'émotion, lu par l'auteur dans les studios de RFI en janvier 2010.
Balayer, parce qu'elle permet de rêver, est une activité subversive.
L'énigme du retour est coédité par RFI. Retrouvez des extraits dans la boutique sur RFI.fr. Le débat du jour, Jean-François Cadet.
Cette émission vous est proposée en partenariat avec l'Association européenne de radio, Euranet.
Et on parle ce soir du grand sujet en débat au sommet européen de Bruxelles, le cas grec et au-delà la gouvernance économique de l'Union européenne en général et de la zone euro en particulier. Quels outils pour stopper la gangrène financière en Grèce et prévenir à moyen terme des cas similaires? Doit-on renforcer cette gouvernance économique? Doit-on créer un fonds monétaire européen comme le propose par exemple le ministre allemand Wolfgang Schäuble? Ou faut-il envoyer les cancres de l'équilibre budgétaire vers le bon vieux FMI? On en parle ce soir avec nos deux invités, Alex Corbel. Bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur associé à l'Institut économique Molinari. Également avec nous l'économiste Daniel Gros. Bonsoir.
Bonsoir de Bruxelles.
Vous dirigez le Center for European Policy Studies à Bruxelles, précisément avec votre confrère Thomas Meyer. Vous êtes un peu à l'origine de cette idée renouvelée d'un FME, d'un fonds monétaire européen. Alors Daniel Gros, pourquoi ce FME serait-il utile, voire nécessaire?
Parce qu'on a bien vu que le pacte de stabilité n'a pas marché. On peut toujours avoir des pays qui sont en état d'insolvabilité presque. Et le problème, c'est qu'on n'est pas préparé. C'est-à-dire, si la Grèce vient et nous dit à nos partenaires européens, demain, je ne peux plus payer ma dette, l'Europe n'est pas préparée, n'est pas prête à gérer ce cas. Et elle doit payer, elle doit faire des prêts à la Grèce parce que elle a peur que si elle ne fait pas ça, la Grèce va avoir des conséquences pour le système financier entier dans la zone euro.
Alex Corbel, vous ne croyez pas, vous, en la mise en place d'un fonds monétaire européen, en tout cas à moyen terme?
Exactement.
Pourquoi?
Parce que, pour le moment, un fonds monétaire européen est illégal dans l'état actuel des choses, parce que la création d'un FME nécessiterait la modification des traités européens existants, puisque le traité de Maastricht interdit aux États membres de la zone euro d'accorder une aide financière directe à un de leurs membres. Mais aussi, cette idée, ce projet de FME serait injuste pour les contribuables européens, puisque ça reviendrait à rendre responsables les citoyens allemands ou français, ou n'importe quel pays européen, des dépenses engagées par un gouvernement qui n'est pas responsable politiquement devant eux. Mmh. Puis enfin, cette idée de FME, bien qu'elle a été très bien pensée par Daniel Gros, dans son étude, pour moi, ça resterait complètement inefficace parce que un FME serait encore moins indépendant que le FMI à cause de l'imbrication économique des pays européens.
Alors, on va parler. Alors, il y a trois points effectivement qu'Alex Corbel soulève. On va commencer par le premier, Daniel Gros. Déjà sur le principe, pourquoi est-ce que les pays vertueux, ceux qui font réellement des efforts en termes de finances publiques pour maintenir leur déficit, pourquoi les pays vertueux paieraient-ils pour ceux qui ont cultivé le vice, si je puis dire?
C'est là le problème. Quand on parle d'un fonds monétaire européen, tout le monde pense tout de suite à un fonds qui va donner de l'argent aux pays en difficulté.
C'est pas le but?
C'est pas le but. C'est pas seulement le but. Le but, c'est d'avoir un fonds qui pourrait aider les pays en difficulté, mais il pourrait aussi aider l'Union européenne à gérer le cas d'un pays en difficulté, le cas d'un pays qui va en faillite.
En faillite, oui, c'est ça. Oui, ben, quelle est la différence?
Bon, il y a une différence énorme. Pour le moment, on n'a aucun mécanisme pour gérer le cas d'une faillite souveraine.
C'est-à-dire que le FMI ne suffit pas pour atteindre cet objectif?
Le FMI, aujourd'hui par exemple, pourrait accorder à la Grèce au plus 10 milliards d'euros, dont il pourrait payer tout de suite 4 milliards. Or, la Grèce a besoin, dans les prochains 3 mois, de 20 milliards. Il est clair que le Fonds monétaire international n'a pas les moyens pour aider les pays en Europe qui ont une dette publique en général beaucoup plus élevée que celui des pays en valeur de développement.
Alors ça, c'est l'argument de l'efficacité que vous souleviez, Alex Corbel. Alors, est-ce que vous êtes convaincu par la réponse de Daniel Gros?
Non, absolument pas. Pour moi, le FMI, mais aussi le FME, comme il est pensé par Wolfgang Schäuble, c'est une mauvaise idée parce que ça favorise l'irresponsabilité des États aux dépens des contribuables. Pour moi, au contraire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut envisager cette crise comme une opportunité pour les citoyens grecs, parce qu'elle donne du champ à son gouvernement, à l'État grec, pour assainir les finances publiques de l'État afin de repartir sur des bases saines de croissance.
Daniel Gros ?
Oui, je serais tout à fait d'accord. Si on pouvait dire aujourd'hui à la Grèce, non, on ne vous aide pas parce que vous n'avez pas fait assez d'efforts. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas dire non à la Grèce parce qu'on n'est pas prêt à gérer la faillite de l'État grec. L'idée de mon Fonds monétaire européen, c'est exactement de se préparer à cette faillite et de pouvoir dire aux Grecs, si vous ne faites pas les efforts nécessaires, on peut dire non parce qu'on est préparé à votre faillite.
Mais Alex Corbel, est-ce que tout de même aujourd'hui la zone euro ne manque pas précisément d'un outil d'intervention de ce type? Parce que le pacte de stabilité et de croissance, on a bien vu que finalement tout le monde le passait un peu par pertes et profits.
C'est un petit peu ça le problème. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau gadget alors que le gadget précédent a déjà montré qu'il ne fonctionnait pas?
C'est peut-être un gadget, mais enfin là en tout cas il y a des millions voire des milliards d'euros à la clé quand même, c'est plus qu'un gadget.
Je dis gadget, mais normalement, Maastricht et le pacte de stabilité interdisent réellement, enfin, il y a vraiment des réponses strictes pour les États qui gèrent mal leurs finances.
Ça veut dire que juridiquement, tout est en place, d'après vous ?
Dans tous les cas, si on accorde une aide financière à l'État grec, on établit un précédent dangereux. Et ça envoie un signal au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie, comme quoi ils peuvent se reposer sur l'aide de l'Union européenne et ne pas faire suffisamment d'efforts.
Donc les Européens doivent laisser tomber les Grecs?
Non. Si vous voulez, il ne faut pas voir ça, il ne faut pas voir cette crise comme une catastrophe, mais plutôt comme une opportunité pour les citoyens grecs. Trop souvent, lorsqu'on aide un État, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, ou peut-être le FME, quand on aide un État, on lui donne une dernière chance de ne pas faire les réformes qui s'imposent dans son pays. Lorsque, en 1994, la Banque mondiale a fait un audit sur ses différents programmes pour aider les pays en voie de difficulté, elle s'est rendue compte que sur 26 programmes, il y avait seulement 6 pays qui avaient effectivement fait les réformes nécessaires pour sortir leur pays de l'ornière. Ce que je veux, moi, c'est éviter qu'on répète ce genre de problème au niveau européen.
Daniel Gros, le FME, c'est finalement la solution de facilité et donner une prime à ceux qui n'ont pas de politique financière saine.
De nouveau, je suis d'accord en principe avec ce qui a été dit. Je dis seulement que dans la réalité des choses, on ne peut pas le faire aujourd'hui. On a sur le papier le pacte de stabilité, il n'a pas été appliqué. On a sur le papier la clause de no bailout, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas aider les pays. Mais en réalité, on n'a pas de choix. On doit les aider parce que notre système financier n'est pas préparé à la faillite d'un État membre.
Mais vous êtes d'accord, Daniel Gros, que pour créer un FME et pour pouvoir aider, en l'occurrence la Grèce, il faut modifier les traités ou pas?
C'est fort possible, mais ce n'est pas si difficile que ça, parce qu'il faut reconnaître que les traités doivent être de toute façon modifiés prochainement sur deux fronts. On doit changer le numéro des parlementaires européens, et ça va être une mini-révision du traité qui, de toute façon, va avoir lieu cette année. Et l'année prochaine, il y aura une deuxième modification du traité parce qu'on doit faire entrer la Croatie dans l'Union européenne.
Donc il y a une opportunité pour modifier le texte. Mais Daniel Gros, comme le dit Alex Corbel, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer, avant d'aller modifier les traités, tout simplement par appliquer le pacte de stabilité et de croissance, voire en le musclant?
Non, je pense que ce n'est pas la bonne voie, parce que le pacte de stabilité a toujours le problème qu'il dit aujourd'hui, si un pays ne fait pas quelque chose, on doit avoir une décision de la majorité d'appliquer certaines choses. Or, le Fonds monétaire européen que je propose aurait des automatismes. C'est-à-dire, si quelque chose ne marche pas, automatiquement, il y aurait une sanction pour les pays concernés, ce qui évite ce problème du pacte de stabilité qu'en effet, en réalité, les sanctions n'ont jamais été appliquées.
Alex Corbel, alors vous qui appeliez précisément à responsabiliser les différents États, là, c'est une situation qui conviendrait beaucoup mieux que la situation actuelle, non?
Oui. Écoutez, moi, voilà. Encore cette histoire de, c'est pas une catastrophe, c'est vraiment une opportunité pour changer. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans les années 70, la ville de New York a informé le gouvernement fédéral américain qu'elle allait déclarer faillite et que ce serait le cas à moins d'un renflouement. Mais le gouvernement fédéral a répondu à New York, bah, je vous en prie, faites défaut, faites faillite. Et puis, on s'est rendu compte que la ville n'a pas fait faillite. Pourquoi? Parce que elle a réformé en profondeur ses financements. En Europe, pour la Grèce, pour le Portugal, bientôt pour l'Espagne, peut-être pour l'Italie, c'est possible, on peut le faire. Lorsque, plus près de nous, on se souvient, en 2009, et RFI en avait parlé, de la crise dans les pays de l'Est, vous savez, suite à la crise des subprimes, la Lettonie, la Hongrie qui était dans une situation catastrophique, gagnait avec un gouvernement impopulaire, et bien, elle a gagné en popularité en passant des réformes très importantes et a su changer la façon dont les électeurs voyaient les sacrifices à faire.
Donc on se fait du mouron pour pas grand-chose, c'est un peu ce que vous nous dites.
Bah, si les réformes doivent... Enfin, on peut faire les réformes. C'est-à-dire que réellement, il faut absolument assainir les finances publiques. C'est faisable. La Lettonie l'a fait, la Hongrie l'a fait, les pays baltes l'ont fait, la Bulgarie a diminué le coût du travail. Et réellement... Un FME, ça déresponsabiliserait l'État grec.
Daniel Gros, il faut à tout prix maintenir la pression sur la Grèce, qui a d'ailleurs menti à ses partenaires européens en truquant les chiffres.
C'est juste, mais je suis tout à fait d'accord. Il faudrait mettre l'Union européenne dans la situation de pouvoir dire non à la Grèce, comme l'a fait d'ailleurs l'État américain envers la ville de New York. Mais je répète, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment envisageable, parce que les marchés financiers sont trop imbriqués qu'ils ne pourraient pas gérer la faillite de la Grèce sans préparation.
Mais Daniel Gros, vous savez bien, le fond du problème aussi, il est économique, et on en a beaucoup parlé, mais il est aussi, bien sûr, politique. Est-ce que ce n'est pas important aujourd'hui, pour la pérennité de la zone euro, de trouver une solution européenne à un problème européen?
Je pense que ce serait quand même souhaitable. Et surtout parce que les conséquences de la faillite d'un pays dans la zone euro seraient surtout dans la zone euro. Alors ça oblige les États de la zone à trouver un mécanisme pour leur permettre de gérer cette situation et ne pas dire « nous on n'est pas capable, il faut qu'on appelle le Fonds monétaire international pour que tout le monde paye ».
Alex Corbel, sur l'enjeu politique du règlement de cette crise européenne?
Je crois qu'il faut pas oublier que c'est pas du tout seulement un problème, une crise économique. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une crise politique. On va trouver des solutions politiques à des problèmes économiques. Et je dirais que les solutions politiques ne vont pas être optimales par rapport à ce problème économique.
Mais trouver une solution politique, c'est peut-être préserver l'avenir. L'avenir de la zone euro, l'avenir de l'euro lui-même, non?
Moi, je le vois assez mal, l'avenir de l'euro tel qu'il est actuellement, parce que le scénario de contagion dont je parlais tout à l'heure est en train de se matérialiser. La note de la dette publique à long terme du Portugal est passée de A à A-. Et après la Grèce, donc c'est le Portugal, c'est la confiance dans le Portugal qui s'effondre. Les investisseurs vont plus avoir confiance dans la zone euro. Ils vont quitter le navire un petit peu. Donc l'effet domino va se répercuter sur l'Espagne et peut-être sur l'Italie. Et qui sait ensuite. Ce que je veux dire par là...
Donc raison de plus pour trouver une solution politique.
Mais est-ce que l'Union européenne... Est-ce que la solution, c'est de essayer de sauver, par des pays qui sont eux-mêmes dans l'ornière, un pays qui n'est pas prêt à faire les sacrifices nécessaires pour s'en sortir?
Alors, question d'Alex Corbel, réponse de Daniel Gros.
Je pense qu'il ne s'agit pas d'aider des pays à gérer une crise qu'ils ne peuvent pas gérer eux-mêmes, mais c'est de protéger la zone euro contre les pays qui sont en difficulté, et qui sont en difficulté pas parce qu'ils ont des problèmes économiques et objectifs, mais parce qu'ils ont fait une politique fiscale irresponsable.
Mais Daniel Gros, est-ce que ça doit aller, comme l'a dit Angela Merkel il y a une dizaine de jours, jusqu'à exclure de la zone euro un pays qui ferait vraiment preuve de mauvaise volonté dans le contrôle de ses finances publiques?
Non, c'est tout à fait irréaliste. Ce n'est pas possible ni juridiquement, ni politiquement. Il est impensable de, d'envisager une déclaration du Conseil des ministres européens qui dirait on va expulser la Grèce de la zone euro. Ce n'est pas envisageable. Par contre, ce qui pourrait arriver, c'est tout simplement si la Grèce est en faillite, elle, en effet, sort pratiquement de la zone euro, parce qu'une fois qu'elle est en faillite, son État n'est plus référencé auprès de la Banque Centrale Européenne, ni peuvent d'ailleurs ses banques ou ses entreprises.
Alex Corbel, même diagnostic ?
Oui, exactement le même. On parle beaucoup, effectivement, beaucoup d'eurosceptiques parlent justement de la sortie de la Grèce de la zone euro. Je dirais que politiquement, à part pour les raisons économiques qu'a souligné Daniel Gros, c'est impossible.
Daniel Gros, dernière question. Certains parlent aussi d'une éventuelle création d'une agence de notation européenne. Est-ce qu'elle servirait réellement à quelque chose?
Si on l'avait fait il y a 10 ans, certainement. Mais surtout, ça aurait dû être une agence de notation indépendante du gouvernement, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, si cette agence de notation devrait noter la dette grecque, l'État grec dirait « on est bon, il n'y a pas de problème ». Et l'indépendance politique de cette agence serait vraiment la clé pour son bon fonctionnement.
Alex Corbel.
Ce que les gens ignorent souvent, c'est que justement les agences de notation de la dette publique sont au nombre de 4. Elles le sont pas parce que c'est comme ça, pas parce que c'est naturel, mais parce que c'est un oligopole. Ça a été défini comme ça par les États. C'est-à-dire que seules ces 4 agences-là peuvent noter la dette souveraine des États. Ça crée des relations de dépendance, des relations d'influence entre les agences et
donc il faut assainir selon vous. Merci beaucoup Alex Corbel, économiste et chercheur associé à l'Institut économique Molinari. Merci également à vous Daniel Gros, directeur du Center for European Policy Studies. Merci beaucoup d'avoir été en ligne et en direct avec nous de Bruxelles. Restez avec nous tout de suite le journal.